tous. Une grande table deux en une aujourd'hui avec notre grand invité, l'écrivaine Leïla Slimani, notre madame francophonie, préside actuellement le jury documentaire du Festival du film international sur les droits humains, dont la 17e édition se déroule à Genève jusqu'au 17 mars. Ensemble, à partir de 12h55, nous parlerons droits de l'homme avec un grand H et droits des femmes avec un grand F aussi, crise des migrants ou encore écriture et langue française à la veille de l'ouverture du Salon du Livre Paris. Mais d'abord, son roman Chanson douce, prix Goncourt 2016, passe sur scène, adapté par la metteur en scène Pauline Bayle pour la Comédie Française, première ce soir à voir jusqu'au 28 avril. La force dramatique et l'universalité de ce texte en question, Leïla Slimani et Pauline Bayle sont nos invités jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Myriam décide de retravailler, besoin de souffler, besoin de se sentir libre. Avec son mari, elle cherche une nourrice pour s'occuper de ses deux enfants en bas âge. La rencontre avec Louise impose l'évidence, un « c'est-elle » vite confirmé. Louise est une perle.
Bonjour. Où sont les enfants? Il m'a semblé les apercevoir et ils ont disparu.
On est là.
Vous êtes où?
Ici.
Mais où? Je ne vous vois pas.
Si, regarde, on est là.
C'est bizarre. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Vous êtes là?
Non.
Alors, par ici.
Non.
Je chauffe ou je refroidis?
Tu refroidis.
Et ici?
Tu chauffes.
Là?
Oui, tu chauffes.
Ah, vous êtes là! Bonjour Adam.
Mais non, moi c'est Lila.
C'est moi Adam.
Ah, pardon.
La rencontre de Louise avec Mila et Adam. Notre nounou est une fée, une perle, jusqu'au drame. L'infanticide annoncé dès les premières pages du roman, dès les premières minutes de la pièce. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Et bonjour à vous Pauline Bayle.
Bonjour.
Qu'attend-on d'un texte, qu'attend-on d'une pièce quand la fin, on la connaît dès les premières secondes, est inéluctable, Pauline Bayle?
Moi, je crois que c'est ce qui fait souvent les tragédies, c'est que les grandes tragédies, c'est que la fin est inéluctable et c'est pas tant l'issue qui nous intéresse, mais la manière dont on s'achemine vers cette issue, et c'est ça qui me passionne d'un point de vue théâtral, c'est ce processus-là à l'œuvre et que concrètement, on voit sur le plateau comment il advient étape par étape et qu'on refasse le chemin jusqu'à l'issue. L'issue en elle-même, moi, elle m'intéresse pas plus que ça. Elle est là, mais c'est le chemin qui m'intéresse.
Pareil pour vous, Leïla Slimani, c'est de rembobiner le fil, de comprendre ce qui
s'est passé. Moi, souvent,
on
m'a demandé pourquoi j'avais fait le choix de commencer par la fin. Et en réalité, ce choix ne m'a jamais paru très original. J'ai toujours eu le sentiment qu'au contraire, c'était un choix assez classique. Comme vient de le dire Pauline, les grandes tragédies sont des tragédies justement parce qu'il y a ce destin, cette fatalité qui s'abat sur les personnages, qu'on sait que ça va mal se finir. Mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est de traverser effectivement leur existence et puis d'interroger... même de manière assez profonde, la question de la condition humaine, parce que la condition humaine, elle est fatale. On connaît la fin avant le début. On sait très bien comment tout cela va se terminer. Donc, en réalité, ça n'est pas très original de commencer par la fin.
Ça se termine quand même pas toujours, oui. D'une manière aussi oui. Violente, hein, on va dire,
oui,
voire atroce.
Évidemment.
Oui. Bon, il y avait quand même aussi l'envie de déconstruire, de raconter la fabrique du mal, la fabrique d'un monstre, entre mille guillemets, comme on pourrait le dire aujourd'hui, puisque cette nounou, Louise, après être arrivée dans cette famille, après être adoptée par ses enfants et par ce couple, tel qu'il l'entend en tout cas, va finir par tuer les enfants, les deux jeunes enfants de ce couple. Qu'est-ce que Chanson douce nous révèle de ces mécanismes, Leïla Slimani?
Je crois que la grande contrainte de l'écriture de ce livre, c'était la question du quotidien. Moi, je voulais raconter l'espace domestique et je voulais essayer de montrer que l'espace domestique n'était pas, contrairement à ce qu'on imagine, un refuge, un espace de douceur, de paix ou de tendresse. Je voulais montrer que l'espace domestique était un espace politique, un espace de guerre, un espace de violence, un espace de domination, que ce soit entre père et la mère, entre l'homme et la femme, entre les adultes et les enfants, entre les employés et les domestiques. Donc ce sont toutes ces relations de pouvoir que je voulais mettre un peu en avant, et je voulais montrer voilà toute la violence qui existe là-dedans. Et l'étranger quel qu'il soit, de par sa nationalité, sa classe sociale, ou parce qu'il est simplement étranger au cercle familial, qui entre dans l'intime, va à la fois révéler des choses sur cette intimité-là, et en même temps perturber toutes les règles et la façon dont ce cercle intime avait l'habitude de vivre. Donc c'est aussi cette perturbation qui m'intéressait. Comment on accueille l'autre? Comment est-ce que l'autre nous dérange? Comment est-ce qu'on est incapable de permettre à l'autre d'appartenir finalement à notre cercle, à notre monde? Donc c'était ces mécanismes aussi de rejet et d'acceptation que je voulais essayer d'explorer.
Et pour mettre en scène ces mécanismes de rejet, d'acceptation, cette violence aussi dans le couple, dans le rapport des parents avec leurs enfants, dans le rapport aussi du couple avec la nounou et des enfants avec elle, 3 comédiens suffisaient, Pauline Bayl?
Oui, je crois qu'il suffisait. C'est vraiment un choix de ma part de travailler avec seulement 3 comédiens, notamment pour raconter la fusion en fait qui va s'opérer entre le corps de la famille, qui est une entité, qui est réglée par une mécanique, comme vient de l'écrire Leïla, très harmonie, enfin qui a son harmonie propre, ses équilibres, et qui va être déséquilibrée d'abord en bien par l'arrivée de Louise. Et donc j'ai vraiment pensé la distribution et les équilibres entre les partitions de chaque acteur comme vraiment une manière de raconter ce processus de fusion et qui va aller jusqu'à quelque chose de très très fort qui dépasse le cadre d'une employée qu'une employée peut entretenir avec ses employeurs, et la dislocation progressive de ces deux corps qui vont redevenir des étrangers l'un à l'autre avec évidemment ce mouvement final d'arrachement. Mais ouais, je crois que le huis clos rendu par les 3 acteurs permettait pas mal de raconter ce qui est à l'œuvre dans le roman. Enfin.
Et alors Anna Servinka joue à la fois la mère, Myriam, mais aussi le fils, Adam. Et le père, Sébastien Poudroux, joue aussi la fille aînée, Mila. Florence Viala, elle, joue principalement le rôle de Louise, la nourrice. Pauline Bayl, après l'Iliade et l'Odyssée, vous adaptez à nouveau un texte qui n'a pas été écrit pour la scène, à moins que Leïla Slimani. Mais après les épopées homériques, vous avez opté cette fois pour un drame domestique très court, dense, condensé. Vous aviez envie de changer d'échelle?
Exactement, je ne pourrais pas mieux le dire. J'avais besoin de changer d'échelle. En fait, après le cadre surhumain de l'Iliade et l'Odyssée, où l'homme est placé dans des contextes extraordinaires, un contexte de guerre pour l'Iliade et celui du vaste monde pour l'Odyssée, où il tente de rentrer chez lui, j'avais envie de m'intéresser à la vie quotidienne et de voir comment est-ce que dans cette vie quotidienne, comment elle peut être le creuset de tragédies tout aussi grandes que dans l'Iliade et l'Odyssée, mais comment cette mécanique se noue au fil de nos vies contemporaines et dans la vie domestique. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Leïla tout à l'heure sur la violence qui se noue dans nos vies sans même qu'on le perçoive derrière des choses un peu légères. En fait, il y a de la violence politique, des rapports de classe entre l'homme et la femme, les adultes, les enfants, la sauvagerie par rapport au monde civilisé. Et ça, c'est dans un cadre très intime. Et j'avais envie de voir comment est-ce que théâtralement on pouvait raconter cette intimité-là et cette violence qui prend sa source dans l'intimité.
Est-ce que pour autant, de l'épopée au drame domestique, ça réclame moins de souffle? Ou est-ce que c'est juste une autre gestion du souffle?
Mais je ne le vis pas du tout comme un drame domestique, chanson douce. Je le vis comme une tragédie grecque. Il y a un absolu. Derrière l'infanticide, de toute manière, il y a un absolu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que ce n'était pas du tout traité comme un fait divers. C'était vraiment la portée immense qui me dépassait complètement, avec le mystère. Et je n'ai jamais essayé d'élucider ce mystère-là dans mon travail d'adaptation et de mise en scène.
Donc, changement d'échelle, mais pas changement complet de registre à travers cette nouvelle adaptation, Leïla Slimani. Est-ce que dans cette figure de Louise, la nourrice, vous retrouvez aussi, est-ce que vous l'avez pensée comme telle, presque un archétype des grandes figures féminines tragiques dans le sacrifice des enfants aussi, comme Iphigénie, Médée, par l'infanticide, mais aussi à travers cette figure de la nourrice.
Je pense que j'ai été inconsciemment influencée par ça. Ça n'a pas, enfin, je ne me le suis jamais formulé pendant l'écriture du livre, mais c'est vrai que j'ai dû être inconsciemment influencée par ça. Et puis j'avais envie de donner à cette nourrice une certaine grandeur. Je ne voulais pas que ce soit effectivement traité comme un fait divers et que cette femme soit ramenée à quelque chose de trivial, de prosaïque. Je voulais lui donner, voilà, effectivement une ampleur d'héroïne, et je n'avais pas peur du fait que, même si elle commettait un acte monstrueux, on allait me dire « Ah, mais comment vous pouvez héroïser quelqu'un qui est un monstre ?» Et moi, ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Oui, je crois qu'il y a une forme d'héroïsme tragique, enfin quelque chose à la fois d'atroce, mais dans cette atrocité, il y a une grandeur que j'avais pas peur d'explorer et que j'avais pas peur de mettre en avant à travers l'écriture. C'est surtout dans la façon de l'écrire, je crois, qu'elle prend cette ampleur-là. Oui, c'est vraiment un procédé narratif.
Il y a d'autres héroïnes littéraires qui vous ont inspiré, Pauline Bayle ?
Oui, La Félicité de Un cœur simple m'a vraiment. C'est une nouvelle que j'ai lue quand j'étais adolescente qui m'a bouleversée, vraiment. Peut-être un des textes de Flaubert qui m'a le plus impactée. Ce qui me passionne, ce qui m'a tout de suite passionnée chez Louise, ce qui m'a happée en fait, qui m'a attirée, c'est cette espèce de dualité qui l'habite, où elle est à la fois la félicité d'un cœur simple, donc une servante dévouée corps et âme pour ses emplois, les gens pour qui elle travaille, et en même temps, Médée était, c'est le premier infanticide de la littérature, et c'est une mère. Et moi, ce que je me suis demandé à un moment, finalement, c'est est-ce que en tuant les enfants, Louise ne se substitue pas à la mère, opérant ainsi une sorte de climax dans la fusion qui s'est amorcée depuis le début du roman. Et du coup, ça, à la fois la figure de Médée et celle de Félicité, oui, m'ont beaucoup accompagnée et nourrie, parce qu'en plus, elle préexistait à ma lecture. La lecture de Chanson douce, donc oui.
On part retrouver Florence Viala sur scène.
Ils vont s'arrêter dans quelques instants, me dire au revoir et faire semblant d'avoir sommeil. Oh, je voudrais qu'ils restent, m'accrocher à eux, rester à leur côté. Je les mettrai sous cloche, comme deux danseurs dans une boîte à musique. Je les regarderai pendant des heures sans jamais me lasser. Ils vivraient et moi j'agirais dans l'ombre pour que tout soit parfait. Leur bonheur, leur joie serait la mienne. Je serai à eux et ils seraient à moi.
On entend la fusion qui s'est opérée, l'implication, l'engagement de cette femme aussi dans cette famille. Les parents, comment les décrire ? Ils ont été et ils sont polis, accueillants, plutôt encourageants. Ils l'aiment leur nounou, ils n'arrêtent pas d'ailleurs de le répéter. On aimerait bien la leur voler. On rêverait tous d'avoir cette nounou idéale, cette Mary Poppins, comme vous le racontez, Pauline Bayle. Mais à côté de quoi ils sont passés ? Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité inconsciente dans le drame qui va se nouer, Leïla Slimani ?
Ah, ça, je suis incapable de vous répondre. Je trouve que d'ailleurs, c'est même une question assez cruelle, qui se pose peut-être, mais en tout cas, moi, je ne pouvais pas.
Qui se pose eux-mêmes par leur culpabilité.
Hein. Mais que moi, je ne pouvais pas me poser en tant qu'écrivain et à laquelle j'avais pas envie de répondre. Je pense que ce sont, comme vous le disiez, des gens bien. Ce sont des gens qui essayent de faire de leur mieux pour que cette relation se passe bien, pour respecter cette femme, pour être de bons employeurs, comme ils imaginent. Lettre. Mais moi, quand j'écrivais le livre, j'étais tout le temps hantée par cette question. Mais qu'est-ce que c'est que bien faire ? Dans ce type de relation, comment on fait pour faire bien ? Comment on fait pour ne pas faire d'erreur ? Il y a des relations comme ça, c'est comme la relation qu'on a avec ses enfants d'ailleurs, comme la relation qu'on a avec certaines personnes qui touchent à l'intime, où on sait que même si on a la volonté de faire bien, on fera des erreurs. Et des erreurs sans doute graves, qui auront des conséquences. Avec ses propres enfants, parfois on a des comportements où on se dit après, mais pourquoi j'ai fait quelque chose comme ça ? C'est terrible. Et voilà, dans cette relation, on est condamné d'une certaine façon à faire des erreurs, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une relation parfaite. Forcément, on se vexe, on ne se comprend pas, on s'humilie sans le vouloir, on se met dans des états de nervosité l'un et l'autre parce qu'on utilise le pouvoir qu'on a l'un sur l'autre. Donc voilà, cette question de comment on fait pour bien se comporter, pour bien faire, et tout au long du livre, je crois.
Est-ce pour autant, Chanson douce, un texte ou une pièce qui invite à se méfier de son prochain ?
Non, pas du tout. Enfin, je crois pas, j'espère pas. C'est vrai que c'était un des malentendus possibles, et que ça m'est arrivé dans des rencontres avec le public, que des gens me disent ça. Alors, c'était drôle, au Brésil, une fois, une femme a levé la main en disant « Oh là là, j'ai tellement aimé votre livre, vous avez raison, je déteste les nounous. » Et moi, j'en ai engagé 24, pires les unes que les autres. Alors, j'ai essayé pendant ensuite une demi-heure de lui expliquer que c'était pas du tout mon propos. Non, mais c'est plutôt le fait, la question, c'est plutôt... Est-ce que c'est possible de connaître quelqu'un ? Est-ce que parce qu'on partage l'intimité avec quelqu'un, pour autant, on va le saisir, le comprendre, ne pas être surpris par lui ? Moi, je crois que même les gens avec qui on vit, même nos enfants, même les gens avec qui on peut partager 20, 25 ans, 30 ans d'une vie, peuvent toujours nous surprendre, qu'en réalité, on ne connaît jamais l'autre. Ce que je voulais raconter, c'est le fait que l'intimité peut au contraire nous aveugler.
Et la scène peut aussi nous permettre de révéler, de faire tomber certains masques, c'est-à-dire d'aller voir, au-delà des apparences, apprendre à connaître la personne qui est en face de nous. Avec nous jusqu'à midi et demi, l'écrivaine romancière Leïla Slimani, auteure de Chansons douces, prix Goncourt en 2016, adaptée aujourd'hui sur la scène du studio de la Comédie Française. À voir, ça commence ce soir, que dis-je, et c'est à voir jusqu'au 28 avril. France Culture, il est midi 17.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Comment s'est faite la rencontre entre la romancière et la metteur en scène ? Comment s'est faite la rencontre entre vous deux ? Est-ce que vous connaissiez déjà le travail, Leïla Slimani, de Pauline Bayle ?
Alors j'avais lu des articles, j'avais entendu parler du travail de Pauline, mais je n'avais malheureusement jamais vu son travail sur scène. Et puis un jour, elle m'a contactée. Nous nous sommes retrouvés dans le magnifique bureau d'Éric Ruff à la Comédie Française, avec cette vue magnifique sur la place Colette. On a parlé, et puis très très rapidement les choses se sont faites de manière très naturelle, parce que j'ai vu qu'elle aimait ce texte vraiment très très sincèrement, que ça lui parlait. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais justement j'aime bien ce mystère là donc j'étais très très heureuse qu'elle s'en saisisse.
Là, on garde le mystère ou on peut le révéler un peu? Pourquoi ce texte vous a parlé plus qu'un autre, Pauline Bayle?
Je crois que j'ai eu un choc de lectrice, de simplement de lectrice, parce que voilà, juste le livre en tant que lui-même m'a vraiment été, ah oui, de l'ordre de la sidération un petit peu. Et puis après, très rapidement, au fil de la lecture, oui, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à l'œuvre de très théâtral, et le besoin, mais c'est plus qu'une envie, enfin c'est, je me suis vraiment dit qu'il fallait l'adapter sur scène, que je devais le faire, mais peut-être que d'autres gens le font beaucoup mieux que moi, enfin voilà, mais qu'il y avait quelque chose qui résonnait en moi suffisamment fort dans intimement, et à la fois aussi je pressentais. Mais ça, c'est très mystérieux. Quand des livres qu'on a envie d'adapter sur scène, moi, j'essaie de suivre une forme d'instinct où je sens derrière les mots une énergie vitale. Voilà. Mais par exemple, l'exemple d'Un cœur simple, c'est de Flaubert. C'est un très bon exemple. C'est un livre une nouvelle que j'adore, que je rêverais d'adapter. Mais pour aujourd'hui, là, j'en serais bien incapable. Je ne saurais pas du tout comment m'emparer de l'écriture de Flaubert. Bon, il se trouve que, quand j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, ou quand j'ai lu Leïla Slimani, là, il y a quelque chose qui se passe à la lecture, où j'ai l'impression que derrière ces mots, il y a de l'énergie, en fait.
Et pourtant, on aurait tendance à penser qu'il est peut-être parfois plus simple d'adapter les textes d'un auteur mort comme Flaubert que d'un auteur vivant comme Leïla Slimani. Non, non, loin de là. On va écouter les mots d'un autre metteur en scène. C'est Jean Bellorini qui, lui, alors est un metteur en scène qui a pris pour bonne habitude d'adapter des grands textes de grands auteurs comme Les Misérables de Victor Hugo, ou récemment À la recherche du temps perdu de Proust, dont il a fait Un instant. Jean Bellorini.
Tous les spectacles finalement que j'ai fait, j'ai toujours eu extrêmement peur. C'est en même temps le pari, quand je me disais que j'allais adapter Rabelais ou Victor Hugo ou Dostoïevski, ça paraît complètement impossible. L'idée est de se dire que au théâtre, un metteur en scène n'est pas un pédagogue, n'est pas un savant. Il est le plus sensible possible, et il essaye de transmettre quelque chose à des gens pour qui c'est connu et d'autres pour qui c'est totalement inconnu. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se crée ce soir, là où le spectacle joue, à cet instant, on s'invente chacun d'autres souvenirs qui refondent quelque chose de commun. C'est impossible au théâtre de vraiment recevoir ce qu'on sent à la lecture. Et en même temps, je suis de ceux qui disent profondément que j'aime le théâtre quand il a l'intimité de la lecture, c'est-à-dire quand on se sent concerné et presque seul face à un spectacle. C'est cet équilibre entre cette aventure partagée et cette aventure solitaire que peut être la lecture.
Voilà, une aventure partagée et solitaire, Pauline Bell. Est-ce qu'il y a eu aussi un peu de ce sentiment de peur dans l'adaptation, peur de la trahison, peur de ne pas tout à fait correspondre ou interpréter de la même manière ce que Leïla Slimani avait pu imaginer pour le roman, ou au contraire, elle vous avait laissé carte blanche et vous avez pris vos aises?
Oui. Alors non, il y a eu de la peur, mais pas du tout de cet ordre-là. Évidemment, il y a la peur de pas réussir à trouver comment exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Donc ça, c'est inhérent à toute création. En revanche, je ne l'aurais pas fait si je m'étais pas sentie très très libre et à l'égard dans l'adaptation. Et je suis bien incapable de savoir ce que Leïla a mis dans son roman, et je me garderais bien d'avoir un jugement là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le livre, et de partir de ça et de le transformer en une œuvre théâtrale, donc qui n'est pas un roman. Et donc j'imagine que c'est pas du tout fidèle, enfin, à ce que Leïla Slimani a pu mettre comme intention au départ, mais c'est pas l'objet, en fait. Je suis pas là pour restituer les intentions de départ, en fait. Moi, je prends l'œuvre telle qu'elle elle existe, et ensuite j'en fais quelque chose d'autre, et puis cette passation là elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup que de ne pas savoir ce qui était à l'œuvre quand je ne sais pas du tout ce que Homer pensait quand il a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Il ne l'a pas écrit.
Voilà. Et ni un pédagogue ni un savant, dit Bellorini, l'adaptation n'est pas aussi une science exacte.
C'est sûr qu'il faut renoncer à plein de choses. Il y a quelque chose de l'ordre du deuil. Hein. Il faut laisser plein de choses de côté. On ne peut pas, de toute façon. J'écris un roman et puis je réécris Chanson douce, mais ça ne va pas être possible. Parce que, voilà.
Donc, je parle des auteurs morts. Pauline Bayle parle du deuil. Leïla Slimani, ça va?
C'est très gai, la grande table aujourd'hui. Puis vous me mettez Homer, Victor Hugo, Rabelais autour de moi, donc je me sens quand même un peu écrasée. C'est sympa. Non, mais moi, vous savez, je l'ai écrit là dans la petite présentation pour la pièce. Moi, je n'ai aucun instinct de possession vis-à-vis de mes textes. Et je n'ai pas du tout le sentiment de savoir ce qu'il y a dedans, ou de pouvoir dire voilà le message, cher lecteur, que je voulais vous envoyer. Voilà mes intentions. Mon texte est un mystère pour moi autant qu'il l'est pour les autres. Et en réalité, je crois, un peu comme l'a dit Proust, que le lecteur a toujours raison. Que le sens du texte n'existe que dans cette espèce de précipité qui jaillit au moment de la lecture. Un livre qui n'est pas lu, c'est comme un livre qui n'existe pas. C'est dans le processus de lecture, c'est dans ce moment justement intime dont on parlait tout à l'heure, que va se passer, que le sens va jaillir. Et donc le sens, il est toujours subjectif. Et je suis persuadée que ce soir, les gens qui viendront voir la pièce n'auront pas tous la même interprétation de ce qui s'est dit sur scène. Chacun aura vécu aussi quelque chose de particulier, d'un peu intime. Donc face à toute œuvre, il y a à la fois un sens global, profond, mais en même temps quelque chose qui ne parle qu'à nous, qui parle à une part de nous complètement irréductible aux autres.
Et quand vous êtes allé voir la pièce, hier soir, je crois, pour la première fois, vous y
étiez? Non, j'y vais ce soir pour la première fois.
Donc je ne demanderai pas ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu.
Voilà, j'y vais ce soir pour la première fois.
Très bien. Elle est l'auteure de Réparer les vivants, grande romancière également. Ses textes, ses romans ont été pour la plupart adaptés au cinéma ou au théâtre. Les mots sur cette question de l'adaptation de Maïlys de Kerangal.
La question des adaptations, c'est comme celle des traductions, et finalement c'est comme celle de la lecture, hein. C'est-à-dire que l'adaptation, elle est émouvante, elle peut vous toucher d'abord parce que elle désigne la capacité d'un texte à se reconfigurer ailleurs, dans un autre médium, le cinéma, dans un autre vocabulaire, dans un autre lexique le théâtre ou le cinéma en l'occurrence. Ça, je trouve que c'est assez merveilleux. Après, le corollaire de ça, c'est que votre travail ne vous appartient pas du tout, plus du tout, que ce soit il est au lecteur, il est à ceux qui l'adaptent et il est à ceux qui le lisent. C'est pas pour ça, si vous voulez, qu'il y a une forme d'indifférence, c'est terminé, je lâche tout, etc. J'aime assez avoir des rapports avec les lecteurs autant qu'avec les artistes qu'on puisse s'intéresser à ce que j'avais écrit. Mais c'est vrai que ça n'est plus à moi. Mais ça rappelle quand même toujours cette histoire incroyable. Écrire, ça se fait à deux. C'est-à-dire même si on est seul pour le faire, écrire induit quand même une forme de présence. Et ce moment où le livre est publié, c'est le moment où l'on peut rencontrer cette présence.
Voilà, on est une fois encore dans l'ordre de la possession, de la dépossession, mais aussi du partage, tel que le formule Maïlys de Kerangal, Leïla Slimani.
Je suis absolument d'accord avec ce qu'elle dit. Sartre le dit très bien aussi, que le lecteur est une sorte de deuxième créateur. En réalité, c'est lui aussi qui va, comme je disais tout à l'heure, insuffler du sens à votre œuvre. Et je crois que, comme le dit très bien Maïlys de Kerangal, au fond, cette acceptation de la trahison, d'une certaine façon, elle se fait immédiatement à partir du moment où vous prenez votre manuscrit, vous le mettez dans les mains de votre éditeur et que cet objet va devenir un livre qui sera vendu puis lu. Vous acceptez que dans ce partage, que dans le fait de le rendre public, bah, se passe plein de trahisons, mais des trahisons qui peuvent être magnifiques. Et moi, j'adore parfois, dans des débats avec des lecteurs, qu'ils aient une interprétation du livre qui me surprenne énormément, où j'ai pas du tout le sentiment d'avoir mis ce sens-là, mais si lui l'a vu, c'est que d'une certaine façon, il y est. Donc, c'est aussi une manière de célébrer la polysémie et puis la plasticité de la littérature. C'est-à-dire qu'un livre, c'est en fait des milliers de livres, plein de livres possibles à l'intérieur du livre, et ça, j'adore ça.
Il va y avoir une adaptation cinéma aussi de Chansons douces.
Oui, tout à fait.
Il y a une grande différence pour vous entre l'adaptation sur les planches et sur grand écran, sur aussi la reproduction de cet espace intime qui est quand même la scène et qui est le cadre de Chansons douces, de ce roman.
Sur le plan de la création, je me sens plus proche par exemple du travail sur scène parce qu'on a une économie de moyens. Quand on écrit, ben, on a un stylo et un bout de papier, puis on écrit sur scène. Également, c'est pas la même chose. On peut pas tout reproduire, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc c'est vrai que je me sens assez proche de ça. Le cinéma, il y a quelque chose des mesures tout de suite qui n'est pas du tout la même, mais c'est absolument fascinant. Moi d'abord parce que je suis très influencée par le cinéma dans l'écriture, que souvent j'écris des scènes en les imaginant filmées ou dans un film. Donc c'était assez drôle de finalement voir ensuite les images que moi-même j'avais imaginées avant de les écrire. Donc c'était une espèce de mise en abîme assez vertigineuse.
Pauline Bell, vous avez bien conscience en mettant en scène ce texte, cette chanson douce, de ce que l'espace de la scène peut apporter par rapport aux lignes qui défilent, aux pages d'un livre qui se tourne, à ce rapport presque intime que vous-même vous devez probablement éprouver comme lectrice par rapport à un livre.
Oui, moi, les règles qui définissent un plateau de théâtre, les conventions qui régissent cet espace-là, moi, m'intéressent beaucoup parce que je crois que la contrainte, c'est ce qui rend libre, en fait. Et par rapport à ma réflexion sur la mise en scène, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partir d'un livre qui est fait d'idées abstraites. Enfin, puis un livre, c'est un objet qui renferme des idées abstraites. Et puis le théâtre, c'est vraiment l'endroit du concret. Il n'y a pas d'art plus concret, de plus pragmatique. Il y a des gens qui transpirent, qui ont chaud, qui portent des choses, etc. Donc, et c'est vraiment ce voyage-là qui part de l'abstrait, qui va au concret, qui m'intéresse et me passionne. Et c'est là-dessus que j'ancre ma réflexion de mise en scène, de la mise en scène.
Vous dites ça parce qu'il fait très chaud dans ce studio aussi. Hein, c'est ça, même chose. Merci beaucoup, Pauline Bell, d'être passée autour de cette grande table. Je rappelle donc que votre chanson douce est à voir sur la scène du studio de la Comédie Française jusqu'au 28 avril. Que ça commence ce soir. Et puis juste un mot pour vous dire que Maïlys de Kerangal, qu'on entendait à l'instant, sera avec nous demain à partir de midi dans la première partie de la Grande Table, en direct et en public des studios de France Culture au Salon du Livre, aux côtés de Jérôme Ferrari et de Johan Sfar. Rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure avec vous, Leïla Slimani, vous restez avec nous.